Robert faisait la grimace. Trop de complications pour un résultat bien incertain. Il préférait un bon poison, bien simple, qu'on administre et qui fait son œuvre. Béatrice, enfin, sembla se laisser fléchir, par dévouement à ce diable qu'elle adorait, par impatience de vivre auprès de lui, à l'hôtel d'Artois, par espérance de le voir plusieurs fois le jour. Pour lui, elle serait capable de tout. Elle s'était déjà depuis une semaine procuré telle provision d'arsenic blanc qu'elle eût pu exterminer le quartier lorsque Robert crut triompher en lui faisant accepter 50 livres pour en acquérir. Il fallait maintenant attendre une occasion favorable. Béatrice représentait à Robert que Mao était entouré de physiciens qui accouraient au moindre malaise de madame. Les cuisines étaient surveillées, les échansons diligents, l'entreprise n'était pas facile. Et puis soudain, Robert changea d'avis. Il avait eu un long entretien avec le roi. Philippe VI, au vu du rapport des commissaires qui avaient si bien travaillé sous la direction du plaignant, et plus que jamais convaincu du bon droit de son beau-frère, ne demandait qu'à servir ce dernier. Afin d'éviter un procès d'une conclusion si certaine, mais dont le retentissement ne pouvait être que déplaisant pour la cour et tout le royaume, il avait résolu de convoquer Mao, de la convaincre de renoncer à l'Artois. « Elle n'acceptera jamais, » dit Béatrice. Et tu le sais aussi bien que moi, monseigneur.
Essayons toujours. Si le roi parvenait à lui faire entendre raison, ne serait-ce pas la meilleure issue?
Non, la meilleure issue, c'est le poison. Car l'éventualité d'un règlement amiable n'arrangeait nullement les affaires de Béatrice. Son entrée à l'hôtel de Robert se trouvait reculée. Béatrice devrait rester dame de parage de la comtesse jusqu'à ce que celle-ci s'éteignît, Dieu savait quand. C'était elle à présent qui voulait presser les choses. Les obstacles, les difficultés par elle-même soulevées ne l'effrayaient plus. L'occasion favorable. Elle en avait plusieurs chaque jour, ne fût-ce que lorsqu'elle portait à la comtesse Mao ses tisanes ou ses médecines.
« Mais puisque le roi la convie dans 3 jours à Maubuisson, » insistait Robert.
Les deux amants en convinrent de la sorte. Ou bien Mao accepterait la proposition royale de se démettre de l'Artois, et alors on lui laisserait la vie, ou bien elle refusait, et dans ce cas, le jour même, Béatrice lui administrerait le poison. Quelle meilleure opportunité pouvait-on saisir? Mao, prise de malaise en sortant de la table du roi, qui donc oserait soupçonner ce dernier de l'avoir fait assassiner? Ou même, le soupçonnant, oserait le dire. Philippe VI avait proposé à Robert d'être présent à l'entrevue de conciliation, mais Robert refusa.
« Cher mon frère, vos paroles auront plus d'effet si je ne suis point là. Mao me hait beaucoup et ma vue risquerait de l'entêter. » plutôt que de l'encourager à se soumettre.
Il pensait cela sérieusement, mais en outre, il voulait, par son absence, se dérober à toute éventuelle accusation. 3 jours plus tard, le 23 octobre, la comtesse Mao, cahotée dans sa grande litière toute dorée et décorée des armes d'Artois, avançait sur la route de Pontoise. Son seul enfant survivant, la reine Jeanne, veuve de Philippe le Long, était du voyage. Béatrice se tenait en face de sa maîtresse sur un tabouret de tapisserie.
« Que croyez-vous, madame, que le roi vous veuille proposer ?» disait Béatrice.
« Si c'est un accommodement, souffrez que je vous donne mon conseil. Je vous engage à refuser. Je vous aurai avant peu toute bonne preuve contre monseigneur Robert. La Divion est prête, cette fois, à nous livrer de quoi le confondre. »«
Que ne l'amènes-tu un peu, cette Divion, qui t'est devenue si familière et que je ne vois jamais ?» dit Mao.
« Cela ne se peut, madame. Elle craint pour sa vie. Si monseigneur Robert l'apprenait, elle n'entendrait pas messe le matin suivant. Moi-même, elle ne me vient visiter que de nuit à la maison Bonnefille, et toujours escortée de plusieurs valets qui la gardent. Mais refusez fortement, madame, refusez. »
Jeanne la veuve, en robe blanche, regardait défiler le paysage et se taisait. Ce fut seulement quand les toits aigus de Maubuisson apparurent au loin, par-dessus la masse rousse de la forêt, qu'elle ouvrit la bouche pour dire « Vous rappelez-vous, ma mère, il y a 15 ans. » Il y avait 15 ans que, sur ce même chemin, en robe de bure et la tête rasée, elle hurlait son innocence dans le chariot noir qui l'emmenait vers Dourdan. Un autre chariot noir emmenait sa sœur Blanche et sa cousine Marguerite de Bourgogne vers Château-Gaillard. 15 ans. Elle avait été graciée, elle avait retrouvé la tendresse de son époux. Marguerite était morte, Louis X était mort. Jamais Jeanne n'avait posé de questions à Mao sur les conditions de la disparition de Louis Hutin et du petit Jean Ier, et Philippe le Long était devenu roi pour 6 ans, et il était mort à son tour. Il semblait à Jeanne qu'elle eût vécu 3 vies distinctes. La première se terminait, loin dans le passé, avec l'atroce journée de Maubuisson. Dans la seconde, elle était couronnée reine de France à Reims, auprès de Philippe. Et puis, dans sa 3e vie, elle devenait cette veuve, entourée d'égards mais éloignée du pouvoir, et assise en ce moment dans la grande litière. 3 vies. Et l'étrange impression d'avoir été 3 personnes différentes qui avaient peine à concorder. Sa propre continuité, elle ne la ressentait que par la présence de cette mère imposante, autoritaire, qui l'avait toujours dominée et à laquelle, depuis l'enfance, elle craignait d'adresser la parole. Mao, elle aussi, se souvenait.
« Et toujours à cause de ce mauvais Robert, » dit-elle. « C'est lui qui avait tout managé avec cette chienne d'Isabelle, dont on me dit que les affaires ne vont pas fort pour l'heure, non plus que celle du Mortimer, dont elle est la putain. Ils seront tous châtiés un jour. »
Chacun suivait sa propre pensée. « À présent, j'ai des cheveux, mais j'ai des rides, » murmura la reine veuve.
« Tu auras l'artois, ma fille, »
dit Mao en lui posant la main sur le genou. Béatrice contemplait la campagne et souriait au nuage.